Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», spéciale élection européenne en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Nous allons interroger dans ces émissions spéciales les principaux candidats pour les élections européennes avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour.
Qui est tête de liste Debout la France. Et la première question sera pour Arnaud Benedetti.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Une première question nationale d'abord. Les raisons pour lesquelles finalement vous n'avez pas fait alliance avec le Rassemblement National, parce que quand on regarde les sondages aujourd'hui, vous seriez largement en tête.
Mais j'ai soutenu au second tour Marine Le Pen, comme les Républicains ont soutenu Emmanuel Macron. C'était un choix de second tour. Quand je l'ai fait, j'ai jamais abandonné ce que je suis, gaulliste. Je n'ai jamais abandonné mon indépendance. Et je sais que la presse m'a beaucoup caricaturé pour faire croire que je devenais Front National. Je reste Debout la France. Et Monsieur Bellamy ne fait pas liste commune avec Madame Loiseau. Monsieur Hamon ne fait pas liste commune avec les socialistes, qu'importe. Il y a des partis politiques différents, il y a des identités différentes, il y a des projets qui ont des nuances, il y a des partenaires qui sont différents au niveau européen, et Debout la France, comme parti politique, sixième parti de France, est indépendant, et dans un scrutin à un tour à la proportionnelle, je ne vois pas au nom de quoi on réduirait la vie politique, on enfermerait les Français dans ce duel qui est une impasse, et on l'a vécu, j'ai fait mon choix au second tour, mais j'ai quand même vécu l'impasse, entre le En Marche et le Rassemblement National. Si on veut qu'il n'y ait plus que deux partis en France et qu'il y ait 90% d'abstention, on continue comme ça. Donc moi, je défends mes idées, mes valeurs, mon idée d'une Europe des nations libres et des projets concrets.
Alors, vous défendez, vous l'avez dit, un projet d'Europe des nations libres. Comment est-ce que vous percevez et quelle est votre position sur l'interminable feuilleton du Brexit ? Qui a marqué les esprits depuis maintenant plusieurs mois, enfin en réalité depuis le vote des Britanniques. On ne connaît toujours pas la fin de l'histoire. Quelle est votre position sur le sujet ? Faut-il imposer des conditions dures à la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne ou bien continuer à négocier pour essayer de trouver un accord qui satisfasse les deux parties, étant entendu qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles seraient les conditions de sortie des Britanniques ?
Trois réflexions sur ce sujet. Première réflexion, si on avait écouté le vote des Français et des Hollandais en 2005, c'est-à-dire si l'Union européenne avait su entendre la voix des peuples il y a maintenant 14 ans, il n'y aurait pas eu de Brexit. Cela veut dire qu'il y a eu Brexit parce qu'on est face à une organisation sourde, muette, à la souffrance des peuples. Deuxième point, est-ce qu'un jour on respectera, notamment en France, la voix des peuples et le vote au suffrage universel ? Les Anglais ont choisi de partir. Je respecte ce vote et je pense qu'il faut arranger ce divorce, car il est toujours mieux d'avoir un divorce à l'amiable qu'un divorce pour faute. Et donc je trouve déplorable l'attitude des gouvernements français et européens qui veulent punir les Britanniques et qui, ce faisant, punissent les Français. Car s'il n'y a pas d'accord équilibré, c'est le seul pays où on a un excédent commercial avec, c'est le seul pays qui participe à la défense européenne. En un mot, nous devons avoir un accord avec les Britanniques serein. Troisièmement, dans la vision que j'ai de l'Europe de demain, l'Union européenne disparaîtra, vous verrez, parce que l'Union européenne est une prison des peuples et ne marche pas. En revanche, je ne veux pas qu'on sorte. Moi, je ne suis pas pour le Frexit. Je suis pour une renégociation des traités qui permettent ce que j'appelle l'Europe des nations libres. 80% des compétences de l'Union européenne redescendent vers les nations démocratiques, frontières, lois, budget. Et en revanche, et c'est ce qui me différencie du Rassemblement National et de certains autres, en revanche, on concentre l'action des grands pays européens sur les défis scientifiques, technologiques, humanitaires de demain, c'est-à-dire en gros sur les 15 grands chantiers, où là, on devrait unir nos forces, mais pas à 28 pays, à 3 ou 4 pays, comme on l'a fait pour Airbus, ça a marché face à Boeing. On devrait exister face à la Chine et aux États-Unis par des coopérations sur quelques sujets. En un mot, je veux faire maigrir l'Europe obèse qui étouffe les peuples et qui remet en cause les démocraties. Et je veux qu'on muscle l'action de l'Europe sur quelques coopérations précises qui feront la hiérarchie des nations au XXIe siècle.
Une question d'ordre que je qualifierais presque de philosophie politique. Aujourd'hui, quand même, l'interdépendance est devenue un peu la loi du monde. C'est quand même une notion qui traverse l'ensemble de la géopolitique. Et est-ce que, finalement, la question de la souveraineté, elle ne se pose pas aujourd'hui plutôt dans des grands ensembles géopolitiques? Et est-ce que, justement, est-ce que c'est pas l'Union européenne qui correspond d'une certaine manière, alors peut-être remodelée en fonction des schémas dont vous venez de parler, quand même, à la taille critique et à l'ensemble qui permettrait de répondre aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés?
Alors oui et non. D'abord, c'est paradoxal ce que vous dites. Je crois que ça correspond plus au XXe siècle qu'au XXIe. Regardez des petits États, Israël, l'Islande, Singapour, la Suisse, la Norvège. Ce sont des États qui sont les plus riches du monde, qui fonctionnent très bien et qui sont libres. Car l'agilité, la force dans le monde, dans la mondialisation, dépend aussi de la cohérence, du sentiment national. Et les pays, la mondialisation d'aujourd'hui n'est pas la fin de la nation, tout au contraire. C'est un monde de réseau, c'est un monde de rapidité, et les grands ensembles qui n'ont pas de cohérence échouent lamentablement. Et donc je pense que la grande erreur de l'Union européenne, c'est de croire qu'en additionnant des choux et des carottes, vous allez être puissant. En fait, c'est l'impuissance, car le grand paradoxe, c'est que toute la journée, Emmanuel Macron et les européistes, d'ailleurs de droite comme de gauche, nous répètent « faut s'unir parce que l'Union fait la force, qu'est-ce que c'est que la France face à la Chine, aux États-Unis » Et quand vous entendez ça, vous vous dites « ah bah oui, faut s'unir ». Mais c'est curieux, ça fait 20 ans qu'on transfère toujours plus de pouvoir à l'Union européenne et que l'Europe n'a jamais été aussi faible vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Et donc j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit « ça veut dire que la méthode n'est pas la bonne ». Ça veut dire que c'est pas en fusionnant contre leur gré des peuples, en cassant leur identité nationale, en cassant leur volonté de conquête, que vous allez créer un ensemble puissant. C'est pas en additionnant 0 plus 0 que vous ferez 2. Et cela veut dire qu'il faut revoir le système. Il faut au contraire laisser les nations s'épanouir, arrêter avec la bureaucratie bruxelloise, arrêter avec cette espèce de nivellement par le bas, et en revanche, cibler les éléments où il faut, oui, face à des grandes puissances, nous armer. Mais ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Moi, je suis pragmatique. Ce que je vois, c'est qu'on vit toujours sur les deux programmes du général de Gaulle, Airbus et la fusée Ariane. Ils ont été incapables de forger un progrès commun. Cela veut dire que quand vous n'avez pas une conscience, quand vous n'avez pas un sentiment national, quand vous forcez les gens à travailler ensemble, eh bien, ils travaillent mal. Vous savez, c'est comme il y a eu des fusions d'entreprises comme ça, qui n'ont jamais marché. Et donc je pense qu'il faut reprendre complètement le dossier européen à la base. Il faut arrêter avec la bureaucratie de Bruxelles, il faut arrêter avec tous ces gens non élus qui décident de nos destins, il faut revigorer nos démocraties, et puis il faut faire des coopérations très ciblées sur quelques points. Je vais vous donner un autre exemple, la Méditerranée. À 28, on a été incapable de faire un programme pour la Méditerranée. Ben moi je veux que les trois pays du Sud, Espagne, Italie, France, travaillent avec les trois pays du Maghreb. Et basta pour le reste. On n'a pas besoin de la Commission, on n'a pas besoin de la mer Baltique, on n'a pas besoin de Mme Merkel, qui a d'ailleurs fait échouer le programme pour la Méditerranée d'Henri Guénaud et de Nicolas Sarkozy. On a besoin d'agilité dans la mondialisation, de rapidité. C'est une vision totalement différente et je pense que ma vision est beaucoup plus moderne que celle des grands ensembles qui s'épuisent et qui ne marchent pas.
Juste pour prolonger, dans l'Europe des projets que vous proposez, et dans cette Europe finalement à géométrie variable, qui était l'Europe qui a permis Ariane et qui a permis Airbus, quid de l'euro?
Ah, vaste débat. L'euro, pour moi, est une monnaie qui ne peut pas marcher, qui explique la pauvreté de masse en France et en Italie. J'ai essayé de le défendre, mais j'ai compris que les Français ne voulaient pas, pour l'instant, sortir de l'euro. Et je pense qu'il faut une étape intermédiaire. Et c'est ce que nous proposons aux Européennes. Nous ne proposons plus de sortir de l'euro. Les Français ne veulent pas. En revanche, nous proposons une première étape qui serait déjà de se réapproprier l'euro et de poser la question de confiance à l'Allemagne. En un mot, ce que nous proposons, c'est que la banque centrale aujourd'hui indépendante soit contrôlée par les États, par un conseil des ministres des finances. C'est-à-dire que chaque année, ce soit les États qui décident de la création monétaire européenne et qu'ensuite, la part, c'est un peu complexe, la part nationale, le poids de chaque pays, permettent le fameux quantitative easing, c'est-à-dire la création monétaire, on se le répartit entre pays et la France fait ce qu'elle veut des 15% de son poids dans l'euro. Je prends un exemple, si nous avons envie d'aider les PME, je préférerais faire des prêts à 0% pour les PME que pour les multinationales. Je préférerais faire des prêts à 0% pour la transition énergétique plutôt que pour les grandes banques. Et si l'Allemagne refuse, eh bien l'Allemagne n'a qu'à sortir de l'euro. Il y a un moment où il faut taper du poing sur la table. Et nous verrons ce qu'on fera ensuite. Mais je crois qu'il y a cette étape intermédiaire de reprise en main de la Banque centrale. Soit les États le veulent, soit alors la sortie de l'euro sera inéluctable. Mais avant, je voudrais qu'on puisse essayer de se réapproprier l'euro.
Alors, il y a un autre sujet sur lequel il faut qu'on puisse vous entendre. C'est la question de l'Europe qui s'élargit. Alors, on voit bien votre logique d'une Europe à géométrie variable, mais aujourd'hui, il y a des élargissements qui sont à l'ordre du jour, en particulier celui à la Serbie. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ça continue, ou est-ce que vous dites qu'il faut stopper tout élargissement et revoir de toute façon, y compris à travers des participations différenciées, et la position des derniers arrivants finalement étant la plus fragile?
Il faut arrêter l'élargissement dans le cadre de ces institutions. D'ailleurs, je remarque les grandes hypocrisies. J'ai vu, par exemple, M. Danjean, qui est troisième de liste sur la liste de M. Bellamy, qui a fait une conférence de presse début février avec M. Wauquiez et M. Bellamy pour dire plus d'élargissement, et qui, deux jours après, a voté les crédits de préadhésion des Balkans et de la Turquie pour 14 milliards d'euros au Parlement de Strasbourg, en commission. Ça montre bien la grande hypocrisie. En fait, la logique de l'élargissement continue. D'ailleurs, les députés républicains socialistes ont voté l'élargissement à la Serbie, tout en disant qu'ils étaient contre. Donc on a une immense hypocrisie. C'est pour ça que cette campagne est difficile, parce qu'on est face à des adversaires, des concurrents masqués, qui font le contraire de ce qu'ils disent. Et je mets en garde les électeurs, je leur dis, regardez les listes, parce qu'il y a ceux qui, comme nous, on a Debout la France, on a toujours fait ce qu'on a dit. On n'a jamais eu de double langage. Sur l'élargissement, qui est ces pays, par exemple des Balkans, veuillent rentrer dans l'Union européenne, on les comprend. Mais il y a un moment, plus on élargit, plus le système va exploser. En revanche, dans le cadre de mon Europe des partenariats, des coopérations à la carte, que la Serbie participe à un programme industriel ou scientifique où il peut apporter quelque chose, où elle ait envie d'apporter quelque chose, pourquoi pas? De même, je suis convaincu que la Russie a un grand rôle à jouer en Europe. Il est complètement absurde d'écarter la Russie de la construction européenne. Mais dans la construction européenne telle que je la vois, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural qu'avait imaginé De Gaulle, c'est autre chose. Donc vous voyez bien que on n'est pas, dans mon esprit, dans une organisation intégrée qui s'occupe de tout et qui échoue dans tout, mais on est vraiment dans un système de partenariat à la carte. L'Europe spatiale doit travailler avec la Russie en matière d'imagerie médicale.
Elle travaille déjà.
Elle continue, ça.
Tout à fait.
Elle n'a pas été interrompue.
Tout à fait. Mais la Russie a des grands scientifiques. Et la France pourrait bâtir des partenariats avec l'Allemagne et la Russie pour peser face aux États-Unis. Mais voyez bien que on est en fait prisonnier d'une logique d'étouffoir. Personne n'ose remettre en cause cette Union européenne qui ne marche pas. Ou alors ceux qui la remettent en cause font peur parce qu'ils veulent se retrouver tout seuls et en fait ils n'envisagent même pas des coopérations. Et c'est là où je suis en désaccord avec ceux qui disent il faut sortir, mais on ne va pas déménager la France. La France, elle est européenne, elle est au cœur de l'Europe. Souvent, on me dit dans les réunions ou à la télévision, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que serait la France sans l'Europe ?» Mais je pose la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que serait l'Europe sans la France? Zéro. Le jour où on a un président français qui a du courage et qui dit à ses partenaires « Maintenant, je ne joue plus, débrouillez-vous. » Mais qu'est-ce qu'ils font sans la France?
Vous prenez la politique de la chaise vide, comme
bien
le général
sûr,
de Gaulle?
Bien sûr. Pas pour détruire l'Europe, pour la reconstruire. Et c'est ma différence avec M. Asselineau, M. Philippot, qui sont en fait dans des impasses et qui, paradoxalement, sont dépendants des traités, parce qu'ils passent leur vie à dire il faut négocier l'article 50, comme là, tiens, je ne parlais pas du Brexit tout à l'heure. Pourquoi les Anglais échouent? Parce qu'ils se sont mis prisonniers de la logique de l'Union européenne. Ils s'en vont. Ils n'ont pas à payer. Ils n'ont pas à négocier quoi que ce soit. Et ils veulent négocier avec des gens qui ne veulent pas qu'ils partent. Est-ce que la femme qui fuit un mari violent doit négocier avec son mari violent. Elle ne doit pas négocier. Elle doit partir.
Le problème, c'est que les traités nous engagent.
Mais non, les traités peuvent être rompus à tout moment en droit international. Je voudrais qu'on
tord l'idée... C'est peut-être la crainte des conséquences économiques, mais, sur les circulations.
Mais non, en fait, actuellement, les Anglais ont les défauts des deux solutions. Parce qu'ils n'ont pas eu un grand homme d'État. S'ils avaient eu Boris Johnson ou Winston Churchill, on n'en serait pas là. Parce qu'en vérité, ce que personne ne comprend, c'est que nous sommes interdépendants. Et ça, c'est une chance. Mais cela veut dire que l'Allemagne a encore envie de vendre ses BMW en Angleterre, rassurez-vous. Hein. Donc, tout ça, c'est du grand cinéma pour manipuler l'opinion française et lui faire croire qu'on ne peut rien faire. Moi, je dis aux Français qui m'écoutent, arrêtez de subir cette espèce de télévision, j'allais dire vichiste, qui veut vous faire croire que la France n'existe plus, qu'on ne peut rien faire. Nous sommes la sixième puissance mondiale. On a plein d'atouts, on a plein de qualités. Il faut simplement être gouverné, être défendu et travailler avec nos voisins, mais sur un pied d'égalité. Voilà l'enjeu.
Arnaud Benedetti.
Alors, une question, parce qu'il y a un sujet qui aujourd'hui remue les opinions publiques européennes, c'est la question migratoire. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à cette question? On la connaît un peu. Et surtout, quid de la question de l'aide, justement, pour fixer les populations chez elles?
C'est le grand défi. Ma réponse, elle tient en trois points. Premièrement, retour des frontières nationales. Car moi, je contrôle la frontière française, je ne sais pas contrôler la frontière bulgare et grecque. Et tous ceux qui vous disent qu'il y aura des frontières européennes vous le disent depuis 20 ans et elles ne viendront pas voir le jour parce qu'ils en sont incapables. Donc moi, j'ai confiance dans les douaniers français, dans les frontières françaises. Pas seulement d'ailleurs contre l'immigration, mais pour le trafic de drogue, pour le trafic d'armes, pour le contrôle sanitaire des produits qui entrent sur notre sol. Deuxièmement, il faut une coordination européenne. Il ne s'agit pas de dire on ne travaille pas avec nos voisins, notamment en Méditerranée, et on va quand même un jour m'expliquer comment on n'arrive pas à détruire les passeurs qui plongent dans la misère et dans la mort des milliers de personnes chaque année en Méditerranée. À quoi servent nos armées si on n'est pas capable de détruire 200 passeurs qui exploitent la misère humaine? Et troisième point, la vraie défi, et là, si j'avais la solution parfaite, ça se saurait, et je crois que personne ne l'a, mais c'est le vrai défi, c'est comment on maîtrise la démographie africaine. Parce qu'un jour, il va bien falloir en parler. Pour éviter qu'il y ait le doublement de population en Afrique, passer d'1,3 milliard à 2,6 milliards en 30 ans, bon courage. Et deuxièmement, pour les pays d'Afrique comme pour les pays européens. Et deuxièmement, comment on fait pour revoir l'aide vers l'Afrique? Comment on fait pour qu'au lieu de donner 1 000 milliards aux banques, on ait un grand plan d'investissement? Et là, l'Europe, on en a besoin. Ce n'est pas la France seule, ce n'est pas l'Allemagne seule qui va le faire. Si on n'a pas, je veux dire, 50% du temps passé, des chefs d'État devraient être sur le dossier africain. Mais ils passent plus de temps sur la taille des courgettes, sur les normes à la con, pardonnez-moi, pour tous les domaines. Ils sont enfermés dans la technocratie bruxelloise.
Et c'est vrai que les budgets de coopération sont extrêmement faibles.
Mais ils sont dérisoires.
Par rapport aux enjeux que vous
Mais on est capable de donner 1 000 milliards aux banques à 0% et on n'est pas capable d'avoir un plan Marshall vis-à-vis de l'Afrique? C'est pas si facile de l'avoir, parce que celui qui dit attention, hein, parce que il faut aussi que les Africains se prennent en main. Mais moi, je suis très inquiet. On est à Radio Orient. Je connais bien le Maghreb. Je suis très inquiet de l'évolution du Maghreb. Imaginez la fragilité économique de la Tunisie. On devrait aider beaucoup plus ce pays à se stabiliser. Et plutôt que d'importer des produits de Chine, on ferait mieux de développer nos usines là-bas. Celles qu'on a mises en Chine, on devrait les rapatrier au Maghreb. On devrait avoir un vrai partenariat méditerranéen. Qu'est-ce que va devenir l'Algérie? Qu'est-ce que va devenir à terme le Maroc? Comment on stabilise ces pays? Comment on fait des transferts de technologies? Comment on les considère, on les respecte? Mais aussi, on leur dit la vérité, on ne peut pas développer l'immigration supplémentaire en France. C'est l'enjeu majeur. Ça devrait nous occuper mais 50% de notre temps. C'est curieux d'ailleurs de voir comment même en France, dans les médias, comment on passe à côté de ce défi mais existentiel pour l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb et l'Europe. Nous sommes liés. Si le Maghreb échoue, la France échouera.
Vous voulez dire que le sujet de l'aide a complètement disparu aujourd'hui?
Mais on en parle très rarement. J'étais le seul à la présidentielle à avoir un plan modeste, mais un plan où en tout cas, je cherche. J'ai beaucoup vu, ça va vous surprendre, l'ancien député Jean-Pierre Brard de Montreuil, que j'aimais beaucoup, communiste, et qui a beaucoup travaillé sur la barrière verte au Sahel. Ce qui se passe au Sahel est terrible. Mais terrible, c'est un des défis majeurs devant nous. La transition démographique en Afrique, personne n'ose en parler. Mais si on ne réussit pas la transition démographique en Afrique, le continent africain va sombrer. Mais qui en parle ? On n'a pas le droit parce qu'il y a une espèce de complexe néocolonisateur, c'est-à-dire qu'un Français n'a pas le droit de parler de l'Afrique sans être accusé de colonialisme rampant. Tout ça est grotesque. Moi, ma génération, je suis né après la décolonisation. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces choses-là avec nos amis algériens, marocains, tunisiens, qui d'ailleurs ont entre nous beaucoup moins de pensées uniques chez eux que chez nous ?
Alors, c'est très important que vous puissiez défendre tous ces projets au sein du Parlement européen au sein duquel vous voulez siéger. Mais si vous voulez effectivement avoir le poids suffisant, il faut que vous ayez des alliés. Il faut que vous nous disiez aussi dans quel groupe vous pensez siéger demain si vous êtes élu. Parce qu'on le sait, il y a un problème quand même dans les différents mouvements souverainistes et patriotes, c'est que souvent ils sont divisés au Parlement européen. Donc, mais est-ce que vous avez quelle vision
et, oui,
et comment est-ce que vous allez justement défendre vos idées demain au sein du Parlement ?
Justement, moi j'ai d'abord travaillé, mais je vous remercie de poser la question. On a travaillé pendant un an avec Jean-Philippe Tanguy, qui est troisième de liste, et qui a réussi à nouer une belle alliance de 23 pays, 23 partis politiques, que j'ai réunis à Paris le 28 février pour le prouver, parce que si je ne les avais pas mis à Paris, on aurait dit que je fabulais. Les Polonais, je vais demain voir Thierry Baudet du Forum pour la démocratie en Hollande. 23 partis politiques qui font que si nous avons 7-8 députés debout la France, ils auront plus de poids que les 20 députés du Rassemblement national qui seront complètement isolés. C'est la première fois que des patriotes vont pouvoir avoir des relais au Parlement européen. C'est très important. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je sais que ça n'intéresse pas beaucoup en général les médias français, mais je suis content que vous posiez la question parce que c'est vital.
Ah bah il n'y a pas que 79... C'est un des enjeux de cette élection.
C'est même essentiel.
Et oui, mais personne n'en parle, donc il faut venir à Radio Orient pour qu'on parle sérieusement.
Très bien, ce sera le mot de la fin pour notre invité, Nicolas Dupont-Aignan. Merci, vous étiez sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?» spéciale élection européenne en partenariat avec la revue politique et parlementaire.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.